Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 6 décembre 2024. L'Alliance arc-en-ciel de Québec annonce la nomination de Béatrice Robichaud à titre de présidente du conseil d'administration. Femme d'affaires, cofondatrice de Pantera Dental et fervente défenseuse des droits LGBTQ+, Béatrice Robichaud apporte une richesse d'expérience et un engagement profond envers l'équité, la diversité et l'inclusion. Sa transition en 2015 a non seulement marqué un tournant dans sa vie personnelle, mais a également renforcé son engagement envers la communauté LGBTQ+. Conférencière inspirante, militante passionnée, elle s'implique activement dans des initiatives visant à promouvoir l'inclusion et à briser les barrières pour les personnes trans. Béatrice Robichaud succède à Dave Tremblay, qui a cumulé plus de 10 années au sein du conseil d'administration de l'Alliance, dont 4 en tant que président. Le groupe d'Amnesty International de la région de Québec invite la population samedi le 7 décembre 2024 aux bibliothèques Monique Corriveau et du Collège des Jésuites de 10h à 16h pour écrire des messages d'espoir. Chaque année, en décembre, des sympathisants sympathisantes d'Amnesty International du monde entier écrivent des millions de lettres pour celles et ceux dont les droits les plus fondamentaux sont bafoués. Tout le monde, petits et grands, sont invités à écrire ou dessiner des cartes de solidarité. La campagne est aussi en ligne au amnesty.ca/marathon. Attaque Québec et plusieurs organismes lancent un appel à manifester contre l'adoption du projet de loi 69 dimanche 8 décembre à 13h devant l'Assemblée nationale. Pour ces organismes, ce projet de loi est un véritable coup de force des lobbies en faveur de la privatisation de l'électricité au Québec, avec l'appui de la coalition Avenir Québec. Déposé par le ministre démissionnaire Pierre Fitzgibbon, le projet de loi 69 pourrait faciliter la privatisation des services publics d'électricité. Des manifestations auront également lieu à Montréal et dans d'autres villes du Québec. Plus de détails sur québec.attaque.org. Également dimanche de midi à 19h, au Centre Hub Créatif, a lieu la première édition de la librairie éphémère et politique. L'activité est organisée par Brasseville, un collectif d'impression et de mobilisation politique situé au centre-ville de Québec. En compagnie de maisons d'édition et de groupes militants, le collectif proposera une sélection de livres politiques, de zines, de journaux et autres. Parmi les exposants et exposantes se trouvent le collectif Emma Goldman, La Page Noire, Pink Bloc Québec et Addict Québec. Le centre Hub Créatif est situé au 729 Côte d'Abraham, local 100. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
en toute simplicité. Alors, bienvenue en toute simplicité. Un petit problème technique avec la musique ce matin. Alors, aujourd'hui, on va avoir Samuel Guérin des cafés réparation. On va parler de réparation d'objets. Avant ça, je vous lis mon extrait de Taureau. Comme j'étais désireux de retrouver le fond longtemps perdu de l'étang Walden, je l'étudiais méticuleusement avant la débâcle au début de l'année 1846, équipé d'une boussole, d'une chaîne d'arpenteur et d'une sonde. On a raconté de nombreuses histoires au sujet du fond, ou plutôt de l'absence du fond de cet étang, toutes, bien sûr, sans le moindre fondement. Il est étonnant de constater jusqu'à quel point les hommes peuvent croire à l'absence de fond d'un étang sans prendre la peine d'aller le sonder. Mais je puis affirmer à mes lecteurs que l'étang de Walden possède un fond raisonnablement étanche, à une profondeur non déraisonnable, quoique inhabituelle. Je la mesure sans peine à l'aide d'une ligne à morue et d'une pierre d'environ une livre et demie. Et je sentis très précisément l'instant où la pierre se décrocha du fond à l'effort de traction plus important que je dus fournir avant que l'eau ne s'infiltre sous elle et m'aide à la tirer. La profondeur maximale que je mesurai était exactement 102 pieds, auxquels on peut ajouter les 5 pieds de crue qu'il a gagné depuis, ce qui nous fait un total de 107. C'est une profondeur remarquable pour une si faible étendue. Et pourtant, chaque pouce fournit une riche matière et l'imagination. Que se passerait-il si tous les étangs n'étaient que des flaques sans la moindre profondeur? Cela n'aurait-il pas d'effet sur l'esprit des hommes? Je suis heureux que cet étang ait été fait profond et pur. C'est un joli symbole. Tant que les hommes croiront à l'infini, certains étangs seront réputés sans fond.
Les anciens racontent qu'autrefois les Indiens avaient tenu là un parois, sur la montagne dressée haut dans les cieux, d'une hauteur pareille à la profondeur de l'étang qui aujourd'hui s'enfonce loin dans la terre. La montagne trembla et soudain s'effondra. Seule une vieille squaw nommée Walden put survivre et c'est elle qui donna son nom à l'étang. Walden. Walden est un parfait miroir de la forêt. Rien d'aussi beau, d'aussi pur. Rien n'est aussi vaste qu'un lac à la surface de la terre. L'eau baigne la rive comme elle le faisait il y a 1000 ans. C'est l'œil de la terre où le promeneur, en y plongeant le sien, sonde la profondeur de sa propre nature.
Lentement reflet diamant, léger, calme, heureux, l'âme en silence chante.
Bon, alors bienvenue à Toute Simplicité. Comme je disais tantôt, on va parler de café réparation aujourd'hui. Avant ça, par contre, j'ai quelques nouvelles, quelques annonces, quelques lectures à vous présenter. Tout d'abord, je vous rappelle, pour ceux qui s'intéressent, qu'il y aura un café philo ce soir à la librairie La Liberté à 19h. Alors, il reste encore de la place. Si vous voulez, vous pouvez vous inscrire. Téléphoner à la librairie, tout simplement, pour laisser votre nom. Librairie La Liberté, qui est à Sainte-Foy, là, sur la route de l'église. Donc, c'est ça, 19h ce soir, Café Philo. Dans ma revue de presse cette semaine, quelques articles. Il y avait un article intéressant dans Le Devoir de lundi sur le coût en énergie du recyclage des déchets. Et... Ben, on disait, par exemple, que l'aluminium, on dit commencer par l'aluminium, le champion du recyclage. Pour produire d'aluminium neuf, on raffine une roche sédimentaire, la bauxite, à haute température et à haute pression. On en extrait ensuite l'alumine par électrolyse avec un puissant courant électrique. Pour produire de l'aluminium recyclé, cela n'est nécessaire. Il suffit de faire fondre le métal récupéré puis d'en tirer une nouvelle feuille argentée. Par rapport à la production d'aluminium vierge, on économise 95 % de l'énergie quand on le recycle. Par contre, on parle du plastique. Produire du plastique vierge demande relativement peu d'énergie. Les gains de son recyclage sont donc moins spectaculaires que ceux de l'aluminium. Après, ensuite, bon, on parle de l'acier. Les boîtes de conserve constituées à forte majorité d'acier sont facilement recyclables. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le recyclage de l'acier utilise 90 % moins d'énergie que la production primaire. Donc, il y a des substances, des produits qui sont nettement avantageux au niveau du recyclage, notamment les métaux, on le voit là. Par contre, on parle du verre. Pour fabriquer du verre, on fait fondre du sable à très haute température. C'est un procédé extrêmement énergivore. Mais mauvaise nouvelle, quand on recycle le verre, il faut passer par les mêmes fournaises. Les économies d'énergie par rapport à la production de verre sont seulement de 25 % selon l'IPA. Bref, en tout cas, si ça vous intéresse, c'est dans le Devoir de lundi. Un autre article intéressant dans le Devoir de lundi, justement, vers un quartier inspiré par Copenhague à Belleuil. On voit beaucoup actuellement là, des initiatives intéressantes, je dirais progressistes ou écologistes, faites par les municipalités, par les villes. C'est très dynamique, les villes au Québec, ce qu'on voit. Alors ici, on parle d'un vaste terrain situé à l'entrée de Belleuil, le long d'autoroute 20, destiné à une transformation radicale. La mairesse et son équipe planifient un nouveau quartier de 4000 logements inspiré par Copenhague au Danemark, réputé pour sa qualité de vie, avec commerce de proximité, canal pour recueillir de l'eau de pluie, espaces verts, corridors piétons et cyclistes, école primaire et habitation à l'architecture avant-gardiste. Alors, c'est ça. On parle de la mairesse, Madame... où est-ce que je vois son nom? En tout cas, cette mère de 3 enfants a été élue à la mairie de Belleuil en 2021 avec le désir de développer la ville autrement. Le vieux Belleuil, sur le bord de la rivière Richelieu, en Montérégie, offre un beau mélange de maisons patrimoniales, d'immeubles plus récents, mais certains secteurs de la municipalité souffrent du syndrome de la banlieue, des maisons toutes pareilles, qui hébergent des gens tous pareils dans des rues sans aucun commerce ni lieu de rencontre. C'est plutôt tristounet, ça manque de vie. Nadine Vio a décidé en 2022 de faire appel à la firme d'architecture Pierre Dibault pour réfléchir à une nouvelle vision pour penser hors du cadre. Alors, si ça vous intéresse, c'est dans le Devoir de lundi dernier. Puis, dernier article, c'est sur les milieux humides. C'est juste encore dans le Devoir de lundi. Plus de 1000 autorisations d'intervention en milieu humide en 2 ans. Dans la foulée de la Conférence mondiale sur la biodiversité, COP15, qui a mené à la signature d'un accord international ambitieux de protection de la nature, le gouvernement Legault a promis d'agir pour respecter les engagements pris à Montréal en décembre 2022. Ceci prévoit notamment de stopper la perte de zones riches en biodiversité et l'extension d'espèces, mais aussi de protéger au moins 30 % des milieux naturels et de restaurer ceux qui ont été dégradés. Le gouvernement a également présenté en octobre dernier son plan Nature 2030 qui doit permettre au Québec de respecter les engagements de la COP15. Le document détaille ce plan, présente notamment un survol de la biodiversité du Québec qui indique que plus de 560 km² de milieux humides dans les basses terres du Saint-Laurent, superficie plus grande que celle de Montréal, ont subi des perturbations entre 1990 et 2011. Alors, on commence à découvrir l'importance au niveau de la biodiversité des milieux humides. On en a beaucoup recouvert, beaucoup perdu. Là, le gouvernement semble vouloir changer de cap, mais on a quand même autorisé 1000. On a eu 1000 autorisations en milieu urbain en 2 ans sur les milieux humides. Dernière lecture, je vous en avais parlé, je pense, la semaine dernière. Très beau livre, « Les forêts nourricières ». Guide d'aménagement pour les communautés par Caroline Dufour Larrivé. C'est aux éditions Éco-Société. On va en reparler de ça parce que dernièrement, on a eu un appel de projet pour les terres des Sœurs de la Charité. Puis j'espère bien qu'on aura à l'intérieur de ces projets-là des initiatives de forêt nourricière, qui est vraiment un concept intéressant d'agriculture mélangée avec la forêt. C'est, on peut appeler ça de l'agroforesterie. Puis dans le livre, qui est un très beau livre, on présente plusieurs projets à travers le monde et au Québec de forêt nourricière. C'est vraiment intéressant comme idée. En tout cas, c'est à suivre. On va essayer de faire un suivi là-dessus, d'ailleurs, à l'émission. Peut-être avoir une entrevue avec des gens qui sont impliqués dans le développement du fameux agroparc qui est en train de se mettre en place là, sur les anciennes terres des Sœurs de la Charité. Alors, on prend une autre petite pause musicale, puis après ça, on poursuit avec Samuel Guérin sur les cafés réparation.
À passer quand on le passe à la fenêtre avec des si et des peut-être et des vaut mieux pas y penser. L'homme est parti pour travailler, la femme est seule, seule, seule. L'homme est parti pour travailler, la femme est seule à s'ennuyer. Ah, que le jour tarde à venir quand on se lève avec l'étoile et on a beau lever la toile, la nuit s'étire à plus finir. L'homme est parti, c'est au chantier, la femme est seule, seule, seule. L'homme est parti, c'est au chantier, la femme est seule à s'ennuyer. Ah, que le jour est donc pas long, que la noirceur vient donc d'avance. Quand l'homme est loin, c'est pas la danse, il faut rester à la maison. L'homme a bûché et charroyé, la femme est seule, seule, seule. L'homme a bûché et charroyé, la femme est seule à s'ennuyer. C'est du dedans, c'est du dehors, la femme attend, l'homme voyage. Il y a beau temps, il y a bel âge, depuis la vie jusqu'à la mort. L'homme est porté à voyager, la femme est seule, seule, seule. L'homme est porté à voyager, la femme reste à s'ennuyer. Excuse les fautes et le papier, mais j'étais pas maîtresse d'école. Je tiens la maison, je tiens ma parole. Si Jean est arrivé premier, j'étais parti pour travailler. Je tiens la maison, je fais pas la folle. J'étais parti pour travailler. Mon désennui, c'est de m'ennuyer. Ils ont parlé d'un gros moulin au lac d'en haut, ça ferait de la gagne. C'était des plages sur la montagne, mais je t'aurais du soir au matin. T'auras fini de t'éloigner, c'est des plages sur la montagne, t'auras fini de t'éloigner, j'aurai fini de m'ennuyer. Avant de donner ma lettre à Jean, j'aimerais te dire en post-scriptum que la maison, quand y a pas d'homme, comme un poil l'été tout le temps. Je t'embrasse encore avant de signer ta talle d'amour, ta rose, ta jambe. Je t'embrasse
son corps avant-hier, ta rose jaune bien-aimée.
Ta rose jaune.
Alors, c'était Gilles Vigneault qui chantait avec René Martel. Ah, quel hiver! Avant ça, on avait eu Richard Séguin, Walden, au tout début de l'émission. Je vous ai lu un texte de Taureau, justement, sur Walden. Petite chanson pour nous rappeler que l'hiver est arrivé. On en a pris conscience ces jours-ci. Et on oublie ça, mais... Dans le passé, l'hiver, c'était un plus grand dérangement qu'encore aujourd'hui parce que les hommes, souvent, montaient dans les chantiers puis ils allaient bûcher puis étaient partis plusieurs semaines. On tente de l'oublier, mais on vivait dans un pays de forêt là, qui n'était pas trop développé là, il y a à peine un siècle. Alors, petit rappel que voilà, c'est l'hiver, mais peut-être que on est moins dérangé aujourd'hui par l'hiver qu'on l'était par le passé. Alors, Samuel.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va, toi?
Oui. Alors, Samuel Guérin, qui est du comité, on peut dire, des cafés réparation à La Patente, qui est à Limoilou, pour ceux qui, en tout cas, qui ne connaissent pas ça, vous pouvez aller voir sur le site Internet. C'est une coopérative de partage d'outils, on pourrait dire, là, coopérative d'artisans qui rendent des outils disponibles pour des gens qui veulent entreprendre différents projets de bricolage, de réparation, etc. Et comme je disais, à l'intérieur de La Patente, il y a un comité qui s'appelle les Cafés Réparation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Ouais, c'est ça. Nous, on est donc hébergés à La Patente. On organise des ateliers tous les mardis à partir de 15h. Les personnes amènent leurs appareils qui sont brisés. Par exemple, mettons mon toaster. Ça, c'est quand même une réparation qu'on voit souvent. Même, c'est devenu un mime, là. Bref, les gens amènent leur toaster à briser. Ils font « Ah, bah, mon toaster marche plus. Est-ce que vous pouvez m'aider à le refaire fonctionner ?» Nous, on est là pour que le toaster soit réparé, mais aussi pour apprendre aux gens à le faire eux-mêmes. Donc on essaie le plus possible d'impliquer les gens dans leur réparation, on leur fournit un tournevis. C'est sûr que chaque personne a comme un background différent là. Donc il y en a qui n'ont limite jamais touché de tournevis, donc il faut comme un peu les déstresser. C'est beaucoup de pédagogie là, les amener à ok. Mais vraiment ce qu'on essaie de promouvoir, c'est toujours possible d'ouvrir son appareil. Enfin non, c'est pas vraiment toujours possible, mais c'est toujours possible au moins d'essayer, de voir ce qu'on peut faire. Faut pas se laisser abattre par la fatalité, mon appareil ne marche plus. Faut comme rentrer dans une démarche qu'on essaie de proposer, que c'est toujours possible d'au moins de regarder, de voir ce qu'on peut faire. Parfois c'est juste un fuse qui a brûlé, parfois juste on ouvre notre toaster et on voit qu'il y a un morceau de toast qui bloque toute la patente là. Donc on enlève le morceau de toast et puis on est content. Parfois c'est quand même plus compliqué, donc là l'électronique... C'est quand même super compliqué, un ordinateur, comment ça marche. Même nous, là, on ne saurait pas faire face à ça, mais même nous, quand on ne sait pas, on va tenter la réparation, on va essayer de voir si ça nous parle ou pas. Et comme on est plusieurs dans l'atelier, il y a toujours quelqu'un qui va avoir une petite indication, un petit cue ou pas. Parfois, juste ça ne marche pas non plus. Là. Et puis c'est correct, on a quand même eu du fun à ouvrir cet appareillage, à discuter tous ensemble autour d'un petit café et autour d'une paire de tournevis.
Mais vous avez plusieurs bénévoles qui ont des expertises quand même. J'imagine que ce n'est pas seulement des toasters que vous réparez, là. Il doit y avoir des gens qui apportent, par exemple, des appareils électroniques.
Appareils électroniques, oui. C'est sûr que le toaster, ça arrive quand même régulièrement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre toaster... clenche plus en bas, là.
Oui.
Ça c'est la réparation qu'on a chaque semaine, il y a une personne qui nous ramène un toaster, ça et la machine à expresso, c'est les deux affaires qu'on voit le plus souvent là. Mais ouais, ça va de du toaster à la télévision full HD 4K etc, hyper high tech là. On a on a tous notre petite expertise, nos spécialités là. Si on a des personnes qui sont spécialisées dans les TV, des personnes qui sont plus spécialisées dans recoller des affaires selon juste pas tenter des... Ouais, c'est vraiment cool parce que les bénévoles, on est peut-être 6, 7, 8, on commence à se connaître là, on sait que ah, ça, cette réparation, ça je sais qui voir. Hop, puis on va voir la personne, on fait hey Jean, tu peux venir nous aider sur une affaire de condensateur. Puis il y a Jean qui arrive et puis il répare le truc.
Et ça, comme dans l'électronique, ça demande une connaissance là, pour, supposons, réparer un amplificateur. Est-ce que vous seriez capable de faire ça? Quelqu'un qui apporte un amplificateur qui fonctionne mal?
Ouais, c'est toujours possible. Nous, ce qu'on va... Mettons, voilà. Par exemple, une personne ramène un amplificateur qui a quand même un appareil compliqué. La personne ramène l'amplificateur. On lui dit, OK, bon, bah, on va essayer de te guider dans la réparation. Puis la personne dit, ah, mais non, mais c'est trop compliqué. Je fais, non. Il y a plein de choses qui sont super simples à vérifier sur un appareil, comme un amplificateur, qui est compliqué, mais c'est juste une somme de petits trucs simples. Si on peut juste ouvrir, maintenant on ouvre l'amplificateur, on va voir qu'il y a comme des fusibles. On va juste montrer à la personne comment tester ces fusibles. Ok, ça c'est quand même une affaire qui est très simple et qui résout peut-être pas, peut-être comme, je sors un chiffre au hasard, 30% des cas c'est un fusible. Donc comme, ça vaut vraiment le coup d'ouvrir son appareil, juste checker, voir si il y a un toast qui a grillé dedans ou un fusible. L'amplificateur, ça devient compliqué après quand on se penche dans l'électronique. Là, c'est là où peut-être nous on embarque. Moi, c'est, on va dire, c'est ma spécialité. Mettons, s'il y a un amplificateur qui arrive, les gens vont dire, ah, ça c'est pour Sam là. Moi, je peux expliquer à la personne, ok, alors voilà comment.
Des fois, ça peut être des soudures qui sont séchées là, ou des, tout simplement, on voit
ça
là,
se voit,
que là, c'est le volume là, qui ne veut pas embarquer, tout simplement, c'est une soudure là. Tout simple que ça. Puis, combien de personnes à peu près viennent à chaque café?
Une dizaine.
Quand même, à chaque semaine.
Chaque semaine,
oui. OK. Puis, OK, là, on a parlé de toasters. Outre les toasters, quelle sorte de réparation que vous avez à faire?
C'est vraiment. Je pense qu'on est plus. Je pense que les gens nous voient plus comme quelque chose où on peut venir réparer ces objets électroniques. Donc, ça va. Même un toaster, c'est quand même... T'as quand même de l'électronique dans un toaster?
Oui.
Parfois, c'est une petite...
Un senseur, oui.
Un senseur, ouais. T'as des... Ouais, je vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'il y a sur la carte électronique d'un toaster, mais il y a quand même une carte dedans. Tu peux faire de la réparation électronique sur un toaster, et c'est quand même intéressant, le toaster, pour justement apprendre l'électronique, parce que nous, notre démarche, c'est aussi d'apprendre aux gens comment ça marche. C'est sûr que si tu commences par un ampli... C'est plus compliqué. Là, vraiment, les bases de l'électronique, c'est le courant passe pas. Ça, c'est quand même des choses qui sont quand même visuelles avec un toaster. Le courant passe, ça fait chauffer. C'est quand même plus compliqué avec un amplificateur.
Ouais, c'est plus simple.
Ouais. Ça, c'est chouette, mais c'est vraiment tout type d'appareil. Même les gens, parfois, ramènent des objets complètement mécaniques. Mettons, mon banc est brisé. Alors, on peut remettre de la colle à bois et puis on scelle ça. Et puis voilà, je sais pas. Beaucoup d'appareils de cuisine aussi, des mélangeurs, donc tout ce qui est basé. Là, c'est peut-être moins d'électronique, mais plus des moteurs, tout ça, qui sont... Tu sais, dans les moteurs, là, t'as des petits charbons, là, qui assurent le contact pendant que le moteur, il tourne. Faut quand même alimenter l'intérieur du moteur qui tourne. Donc, t'as des petits charbons qui se mettent sur le côté. Et ça se lime à force que le moteur, il tourne. Donc, au final, tes charbons, c'est normal, c'est fait pour ça. Ça finit par être un peu mangé, là. Et puis, au final, à la fin, il n'y a plus de charbon et l'appareil, il cesse de fonctionner. Mais c'est fait pour ça. Avant, quand tu achetais un appareil, ils te donnaient un kit de charbon pour remplacer. Maintenant, ça n'existe plus. Là. C'est comme une espèce de...
C'est ça.
Qu'on a perdu. Là.
C'est
Mais
ça.
C'est vraiment fait pour. Là. C'est normal que ton moteur, au bout d'un moment, il cesse de marcher. Donc, c'est comme... OK, bah, ouvre. Tu vois bien qu'il manque un truc. Là. Bah oui, il manque... Tu vois un spring qui a lâché. Là. Et puis, tu remets le petit charbon. Et puis, ça marche super bien. Là.
C'est qu'on jette aujourd'hui beaucoup. D'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir là, sur les ordures, là, qui s'appelle les ordures. Là, qui, d'ailleurs, ça aussi, on va en parler à l'émission. Puis, lui, il dit qu'il trouve des trésors. Les gens jettent des appareils qui tu fais des fois une toute petite réparation, toute simple. Puis, l'appareil fonctionne de nouveau. Là. Il y a des... Et il y a beaucoup de gaspillage, là. Il y a beaucoup. Puis on est dans le temps des fêtes, là, actuellement. On consomme beaucoup. C'est sûr que ça serait gênant de donner un cadeau réparé. Mais pourquoi pas, tu sais, trouver un appareil qui est brisé puis le donner en cadeau. Mais ça nous rappelle quand même qu'on a tendance à consommer, surconsommer. Puis la réparation, ben ça fait partie du recyclage. On en parlait tantôt des différentes...
C'est ça que c'est intéressant ce que tu dis. On serait comme gêné d'offrir un appareil réparé. Mais c'est pourquoi? Pourquoi finalement on serait gêné? On a comme une espèce de pression là, d'offrir quelque chose un peu de brillant. Peu, mais c'est ça. Tu vas faire comme un gros cadeau à Noël. Ah, OK, c'est cool. Il faut juste que ça shine et tout, mais... Au final, est-ce que tu as acheté quelque chose de bonne qualité déjà? Ouais. On est comme moins gêné d'offrir quelque chose de mauvaise qualité, qui soit irréparable, qui ne tienne pas dans la durée, qui ait un impact sur la planète destructeur, plutôt que juste un appareil que même toi, tu as pris le temps d'investir, qui n'est pas neuf. C'est ça, on dirait que quand c'est pas neuf, ça va pas... T'as l'impression que ça va pas plaire, ou même recevoir quelque chose de pas neuf, tu prends ça comme un manque de respect.
Ouais.
C'est quand même compliqué là de changer cette espèce de tradition.
On est vraiment, d'ailleurs, le temps des fêtes, c'est vraiment une période de consommation exagérée là. Puis c'est relié aussi à l'achat dans les magasins. Puis on n'a pas cette on n'a pas l'habitude, c'est rare qu'on voit ça, là, de donner des cadeaux usagés. Mais pourtant, il y a des objets réparés qui sont de bien meilleure qualité. Par exemple, des mélangeurs. Les anciens mélangeurs, ils étaient en verre. Hein, aujourd'hui, c'est en plastique. Et les vieux appareils, souvent, étaient mieux faits. Ils se réparaient. Alors, ça vaut la peine, justement, de les remettre en vie, ces vieux appareils-là qui avaient une meilleure qualité. Là.
C'est ça, c'est une laveuse là, que tu as depuis 20 ans, elle brise. Bon, bah, tu te dis, OK, je vais en changer, je vais en acheter une nouvelle. Mais pour une nouvelle qui va durer, quoi, 3 ans, après, elle va briser. Alors que si tu faisais la petite réparation sur ton ancienne laveuse, bah, elle retofferait 20 ans. Ça, c'est quand même intéressant, mais c'est ça, sur le nouveau matériel, quand tu ouvres vraiment, c'est ça aussi qui est chouette quand tu fais de la réparation, quand tu ouvres un appareil, tu te rends compte là, de plein de choses. Là. Est-ce que j'ai besoin d'avoir autant d'électronique, mettons, dans un toaster là? Parce que tu en ouvres différents, des machines à expresso, tu en ouvres plein, du coup, tu te rends compte un peu l'évolution qui est l'évolution imposée par les personnes qui fabriquent tous ces appareils-là, qui designent tout ça. Ça tend vers beaucoup plus de fonctionnalités dans tes appareils pour vendre... est-ce que c'est vraiment nécessaire une puce Wi-Fi dans mon toaster? Il y a vraiment des trucs comme ça. Tu sais, maintenant, les micro-ondes, là, ils ont le Wi-Fi. Pourquoi?
Écoute, on va prendre une pause musicale puis on va poursuivre notre discussion là, sur le recyclage, la réparation.
Un jour dans un village, quelqu'un s'est mis à vendre du pain. On venait de sauver de l'ouvrage, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Puis quelques temps après, la farine livrée à la ville, et puis vendue à la livre, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Le blé porté sur les marchés du monde, le prix qui monte sur le dos de la demande. Ils ont breveté les semences, on sait plus par quelle botte s'y prendre pour manger. Plus tard, suivant la ligne, on a mis l'eau dans les bouteilles, puis les rivières dans les turbines. Tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. On bouche les trous avec des clous, l'argent du pain, l'argent du beurre, puis la chèvre et puis le chou, puis tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Le bénéfice a mis sa main dedans le doute, La terre qui tourne peut même plus joindre les deux bouts. À 4%, on te remercie, puis pour le reste, il y a vas-y, faut payer. Du prix de l'indécence. Si tu veux être, faut que tu dépenses. La bourse mouline sur la confiance. Tout ce qu'on trouve encore à dire, c'est combien? Un petit peu moins pour un petit peu plus cher. Au profit de notre laisser-faire. Attendre jeudi pour le nécessaire. Tout ce qu'on trouve encore à dire, c'est combien? À la santé de la croissance, de la croissance. On laisse dormir l'amour dans les petites avances. L'incalculable a rendu l'homme, mais le silence, notre silence, puis la fin de notre silence, c'est combien? C'est combien?
Alors, c'était Fred Pellerin, c'est combien? Alors, on est de retour avec Samuel Guérin des Cafés Réparation. En passant, c'est quel jour encore que c'était que ça a lieu, les Cafés Réparation?
C'est le mardi à partir de 16h, 4h de l'après-midi. Vous pouvez venir à La Patente, 507 rue des Sables, donc c'est juste la première rue. C'est comme la 0e rue de Limoilou, juste avant la première rue. Okay. Après le pont, on tourne à droite, on va au bout de la rue.
Le mardi
à... trouver toute une gang de... de crinquer.
Le mardi à 16h, jusqu'à quelle heure à peu près?
À peu près, on ferme vers 19-20h, mais bon, arrivez pas à 18h45, là, on n'aura pas trop le temps.
Ouais, 19-20h, donc à peu près 4 heures là, de réparation.
C'est
là.
Ça.
OK. Puis, comme tu disais, il y a quand même à peu près une dizaine de personnes qui viennent à chaque semaine. Puis, quand on appelle ça café réparation, j'imagine qu'il y a du café sur place ou quelque chose du genre. Là.
Mais c'est vrai qu'à 4 heures, c'est quand même pas facile de boire un café. Là. C'est pas forcément quelque chose de conseillé si on veut se coucher avant minuit. Ouais.
Alors,
Mais on sert quand même du café parce que.
Vous servez du café quand même. Là.
Café réparation, je pense que c'est comme. Un nom qui était sorti, je ne connais pas exactement l'historique, là, mais c'est quand même un espèce de mouvement qui est devenu international.
Oui, oui.
Où, qui, je pense qu'il se passait plus les week-ends, les fins de semaine à la base, où justement on essayait de réunir les gens autour d'un café, faire quelque chose de convivial autour de la réparation, créer justement un moment de discussion, d'échange. C'est plus comme ça qu'on va voir le café, mais du coup, on fait du café parce que... Parce que c'est le fun aussi.
Ben, c'est le concept. C'est, hein, c'est,
ça qu'on
c'est comme nous, on fait des. Moi, je fais des cafés philo, mais c'est le soir, c'est pas nécessairement tout le monde qui va prendre un café, là. Mm-hmm. Mais pourquoi pas, là?
Pourquoi pas?
Moi, ça me dérangera pas pour le sommeil, mais certains, non. Mais c'est le concept, ça vient des repair cafés qu'on a entendu parler. Il y en a eu partout dans le monde. En Europe, surtout. Je pense que ça a commencé en Europe.
En Allemagne ou
en Allemagne, je pense, au Danemark. Puis, ben justement, une autre chose que j'aime de ces initiatives-là, c'est que c'est une expérience communautaire. Mm-hmm. Ça rassemble les gens. C'est comme un événement communautaire. Là.
Ouais, ça, c'est sûr que la discussion, elle commence plus sur... par notre rapport aux objets, là, mettons ton objet, okay, comment on va réparer, vraiment focuser, mais après, c'est sûr que ça crée... C'est ça qu'on essaie de réfléchir aussi un peu en ce moment, comment... parce que c'est comme une dynamique qu'on a avec la personne, on parle à la personne, parfois plusieurs réparateurs, mais comment on pourrait faire aussi que les personnes qui viennent réparer leurs objets puissent se parler et même s'aider, tu sais, entre elles. Ça, c'est quelque chose qui serait vraiment chouette à essayer de creuser un peu.
Ben, c'est ça, moi, je pense que c'est ça l'idée, c'est au lieu de réparer tout seul chez nous, ben... ça devient comme une façon, une sortie, un événement social, communautaire. À Limoilou, puis c'est bien situé. D'ailleurs, votre clientèle doit être beaucoup de Limoilou, là.
On est quand même on est quand même un peu les seuls à Québec à proposer ce genre de service, d'accueil et d'activité quelque part. Il y a des personnes à Lévis qui le font aussi, là, un genre de café, restaure café, c'est une fois au mois. Mais tu sais, c'est à Lévis.
Okay.
À Québec, on est un peu les seuls, donc c'est sûr que ce serait plus le fun qu'il y ait comme plein de petits cafés réparation un peu partout dans différents centres communautaires. On est souvent approché par des centres communautaires pour justement créer ce genre d'activité un peu plus locale, un peu plus centré sur la communauté. Mais nous, au café réparation à la patente, il y a des gens qui viennent de loin. Je trouve que ça, c'est quand même intéressant. Là, est-ce qu'on pourrait pas... Mais nous, on n'est que 8, là. C'est pour ça que je peux profiter de ce petit temps d'antenne pour faire appel à toutes les personnes qui voudraient se lancer dans là-dedans. Là, c'est vraiment... C'est ça, là. C'est juste acheter un kit de tournevis, là, et puis regarder, prendre le temps de juste regarder ça tous ensemble, parce que je pense que ça serait intéressant, justement, d'aller moins loin, d'aller proche, et de créer, justement, des petits ateliers comme ça, plus communautaires, dans le sens communauté locale de voisinage ou de...
Mais vous bénéficiez de la patente, justement, des outils. C'est une coopérative d'outils, là, la patente. Là.
La patente, après, les outils vraiment qui ont été achetés au début de l'histoire de la patente, c'était une coopérative d'artisans du bois. Là. Donc, c'est comme des machines-outils spécialisées dans le bois, donc des raboteuses, je ne sais même pas comment ça s'appelle, en fait, parce que moi, je ne fais pas tant de bois que ça.
Ouais, il y a des tours, je sais qu'il y a des tours à bois.
Il y a des machines qui font plein de bruit.
Des planeurs,
qui font plein de poussière de bois, ouais.
Mais là, vous avez
quand même... Ce n'est pas les outils qu'on va utiliser pour la réparation. Okay. Nous, les outils, c'est notre comité. On a acheté des outils spécialement faits pour la réparation et c'est nos outils. On ne va pas les prêter. La patente, il y a comme l'outil tech. On peut louer des outils pour faire des travaux manuels chez nous. Mettons une perceuse, une visseuse, un petit mini banc pour couper du bois. Là, on peut en louer, les prendre, les ramener chez nous comme une bibliothèque, mais d'outils, là, mais... Ça aussi, c'est des outils qui sont différents. Nous, on a nos outils spécialisés dans la réparation. C'est quand même des outils spécifiques, oui.
Mais les gens peuvent arriver sans avoir d'outils avec leur appareil, puis les bénévoles vont leur fournir des outils.
Pour oui, c'est ça. On vient aussi pour les outils, même nous, les bénévoles. En général, on s'apporte nos petites réparations de la semaine, parce que va savoir pourquoi... À chaque semaine, on a toujours un petit truc à ramener, là, une petite affaire à gosser, et on profite des outils. Et puis, c'est toujours le fun. Nous, quand tout le monde est parti, à la fin, on se retrouve entre bénévoles et on répare nos petites affaires. C'est vraiment un chouette moment. Là, on est tous à gosser, à discuter de tout et de rien.
Mais c'est ça.
Autour d'une petite réparation.
Les bénévoles fournissent les outils aussi. Là.
On fournit les outils, oui.
C'est ça.
Ouais, non, il n'y a pas besoin de ramener son outil de
tourner. Mais c'est ça. On les apporte, là, mais... Oui.
Ouais,
puis ça, tu sais, comme exemple, dans l'électronique, là, il est multimètre.
Ouais.
Puis ça, ben, c'est un appareil qui n'est pas difficile à utiliser, sauf que si on ne l'utilise pas souvent, on ne sait pas exactement comment... Il faut s'en servir souvent pour se souvenir des fonctions du multimètre.
C'est ça, à la limite, il n'y a pas tant besoin de ramener ces outils. Mais si tu as un multimètre, justement, je pense que c'est chouette de le ramener. Comme ça, on peut apprendre à l'utiliser ensemble. Je te montre sur ton multimètre. Comme ça, toi, tu pourras à la maison checker tes fuses, checker tes affaires en sécurité aussi, parce que parfois, c'est dangereux de tester des affaires. Mais c'est sûr que si tu ne sais pas vraiment ce que tu fais, un multimètre, ça peut être impressionnant aussi. Tu as comme une espèce
ben oui,
de roue
ben oui.
Avec
plein de fonctions.
Parfois 20 fonctions. Okay, oui. C'est quoi toutes ces fonctions?
Oui.
Comment
oui.
Je me sors de ça, c'est comme la première fois.
Alors, c'est juste des fois, ça peut être un cours comment se servir du multimètre, qui était un outil vraiment polyvalent puis pratique à connaître, mais qui n'est pas si compliqué que ça, mais ça demande quand même un petit apprentissage, là, un petit accompagnement au début. Là, puis si on achète un multimètre là, au Canadian Tire, on n'aura pas de cours qui va venir avec.
Non,
là,
c'est sûr que même juste la notice, s'il y a une notice, on est quand même chanceux. Si ça va au-delà de changer les piles.
Ouais.
Ouais. Ouais, mais même nous, on découvre des nouvelles fonctions sur les multimètres. Là. Mais c'est vrai que le multimètre, c'est vraiment un achat. Si vous ne savez pas quoi offrir à quelqu'un pour Noël, ça c'est correct d'acheter un multimètre neuf.
Ouais, ouais, puis c'est...
Pour 10 piastres, là, vous avez toutes 20 piastres. Ah oui, quelque chose qui vous permet de réparer
plein de choses électroniques, hein. Là, ben oui, c'est ça. Puis Ça fait que ça, il y a ça aussi. Il y a un côté éducatif aussi. C'est pas seulement réparer, mais on apprend avec les bénévoles bricoler, réparer. Là, j'imagine que si quelqu'un qui s'offre à être bénévole au café réparation, c'est parce qu'il y a une certaine connaissance, des connaissances dans la réparation. Là.
Ouais, mais. Bah, ouais, c'est sûr qu'il faut. Mais nous, ce qu'on essaie de dire, c'est toujours la réparation, il n'y a pas besoin de tant de connaissances que ça. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai que c'est intimidant de voir un appareil, okay, on ne sait pas comment ça marche. Et puis, ok, mais on peut juste l'ouvrir et essayer de comprendre. Et moi, par exemple, je me suis impliqué pas dans ce café réparation-là, mais dans un autre café réparation à Lyon, en France. Moi, je connaissais pas tant que ça la réparation. Je connaissais quelques affaires sur l'électronique, mais je me suis impliqué justement pour en apprendre plus. Et j'accompagnais des personnes et je leur disais, on va l'ouvrir et on va chercher ensemble. Tu sais, genre, je pense que j'étais à l'aise dans la démarche de, ok, comment on va faire pour chercher, mais j'avais pas tant de connaissances que ça. Maintenant, c'est sûr qu'à force, j'ai accumulé des connaissances grâce à la réparation, mais à la base, j'avais pas vraiment. Donc, si vous êtes bénévole, si vous avez juste envie, il y a comme. C'est comme correct là, de pas avoir non plus d'expertise incroyable.
Mais ça devient à ce moment-là, on apprend des autres bénévoles, là, puis on développe une expertise avec le temps. Là.
C'est ça, même si on ne connaît pas grand-chose, pas grand-chose fois 8, ça finit par faire quand même pas mal. Donc,
ouais. OK, on prend une dernière petite pause musicale, puis après ça, on va conclure là, sur les cafés réparation.
Oh.
Alors, c'était une chanson de travail georgienne, Hamlet Gonachvili. Je voulais faire en même temps, c'est un petit clin d'œil à la Géorgie où ça brasse ces jours-ci, là. Les gens se mobilisent là, pour ne pas être un peu comme l'Ukraine, là, incorporés à la Russie. Ils veulent joindre l'Europe. En tout cas, c'est un chanteur célèbre en Géorgie. Et une chanson de travail aussi, qui est un peu appropriée à l'émission d'aujourd'hui. Alors, Samuel, il nous reste 2 minutes pour conclure. Avais-tu des choses à nous dire avant la fin de l'émission?
Dire que la réparation, c'est quand même une activité qui est le fun. Déjà, ça peut paraître compliqué, mais quand on s'y met, ça devient vraiment le fun. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit chez les participants et les participantes qui viennent à nos ateliers. Parfois, ils ne s'attendent pas à devoir eux-mêmes utiliser les tournevis. Et il y en a qui sortent et qui ont, comme on voit, c'est dans leurs yeux, là, c'est un peu bête de dire ça, là, mais on voit quand même qu'on a allumé une petite étincelle chez eux. Ah, ok, c'était vraiment le fun, je ne m'attendais pas à ce que ça soit ça, et à ce que ça soit autant le fun. Alors voilà, pensez-y là pour ces longues journées d'hiver là, au lieu de vous ennuyer là comme la femme qui attend son mari toute la journée,
après venir au café réparation, s'il y avait eu des cafés réparation.
Café réparation ou s'il avait un multimètre chez elle, là, elle aurait pu. C'est sûr qu'il y a moins de choses à réparer et c'est sûr que le temps des fêtes nous invite quand même à acheter, à consommer. Avec cette espèce de pression là, qui nous vient de je sais pas où vraiment, mais vraiment c'est correct. Moi j'ai déjà offert à ma sœur là, des affaires que j'avais trouvées dans la poubelle, que j'avais réparées, et ça lui a fait tellement plaisir parce que ma sœur elle a des considérations environnementales vraiment très fortes.
Ah oui.
Juste que je lui offre un appareil qui a été sorti de la poubelle, ça lui a fait tellement plaisir là, que juste je passe du temps, moi, c'est vraiment... Ouais.
Ça donne une valeur ajoutée à l'objet qui a été réparé. Comme
c'est ça, ouais.
Il devient, quand il est comme ça, recyclé, réparé, il y a une valeur écologique là, qui pour certaines personnes, ça rejoint leur valeur personnelle là, d'avoir ces objets-là. Là.
Une valeur écologique, mais aussi une valeur affective. Tu sais, quand tu as réparé l'objet, aussi. Tu l'as un peu vu de l'intérieur, tu le connais un peu mieux. Et tu rentres dans un rapport différent avec tes objets. C'est vraiment chouette.
Alors, c'est le mardi après-midi.
Mardi à partir de 4h.
À la patente,
507 rue des Sables. Pas besoin de réserver. Ramenez tout ce qu'il faut pour tester votre appareil. N'oubliez pas le petit cordon d'alimentation.
Un café réparation agréable. Un beau moment de partage avec d'autres.
Petit café.
Bricoleurs.
Petite réparation. Petit tournevis.
Alors, Samuel Guérin, merci.
Merci
pour
à toi.
Ton entrevue. Et puis, j'invite les gens à aller essayer de réparer des objets. Je vais peut-être y aller. Moi, j'ai un amplificateur que j'aimerais réparer.
Yes.
Alors, bonne semaine et à la semaine prochaine.
Vous écoutez CKI à 88.3, Radio Urbaine.
Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualités locales, enjeux sociaux, culture, sport, politique, prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec Réveil, du lundi au vendredi, dès 7h30.
Vos dons à l'Association des amputés de guerre ont un effet durable sur la vie des personnes amputées. Votre soutien leur donne accès aux prothèses nécessaires pour les activités quotidiennes et à des ressources qui leur permettent de mieux vivre avec leur amputation. En bénéficiant de nos programmes, les personnes amputées progressent vers l'autonomie. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Pour en savoir plus sur la portée de votre appui, visitez le amputedeguerre.ca.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 6 décembre 2024. L'Alliance arc-en-ciel de Québec annonce la nomination de Béatrice Robichaud à titre de présidente du conseil d'administration. Femme d'affaires, cofondatrice de Pantera Dentale et fervente défenseuse des droits LGBTQ+, Béatrice Robichaud apporte une richesse d'expérience et un engagement profond envers l'équité, la diversité et l'inclusion. Sa transition en 2015 a non seulement marqué un tournant dans sa vie personnelle, mais a également renforcé son engagement envers la communauté LGBTQ+. Conférencière inspirante, militante passionnée,